J'ai lu un bouquin d'un franco-marocain qui a traversé l'Amérique en courant. Et j'ai lu le livre en une nuit et c'est ça qui m'a en fait donné le déclic, me dire, bon allez, maintenant c'est ton tour. Tu vas faire également, tu vas traverser un pays en courant. Et donc j'ai mis 8 mois pour me décider de vouloir traverser l'Australie en courant, de Melbourne jusqu'à Darwin, ce qui représente 5400 km. Les deux autres aventures découlent de cette première aventure. Pendant la traversée de l'Australie, j'ai souffert de plein de choses. Déshydratation, je me suis fait mordre par une araignée, j'ai souffert de douleurs au niveau des genoux, au niveau des pieds, manque de nourriture. Je me suis fait chasser pendant presque une semaine par un dingo qui me tourne autour jour et nuit, parce que j'ai failli en crever en plein désert à tenir 4 jours sans boire. Et en fait, c'est ça qui m'a donné cette envie de pouvoir continuer sur la thématique de l'eau. Donc, hein, j'avais compris ce qu'était la rareté de l'eau en Australie, je voulais voir ce qu'était l'abondance de l'eau. Et je suis parti au Tibet et j'ai descendu le fleuve Mékong en hydrospeed.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Rémi Camus. Bonjour Rémi.
Salut Pierre Arnaud, tu vas bien?
Bah écoute, ça va super. Petit temps pas très agréable, mais sinon le moral est bon, ça fait toujours du bien. Et donc Camus comme Albert.
Exactement.
Pas un descendant, comme... un cousin.
Je ne pourrais pas te dire, probablement ouais. Quelqu'un peut-être de la famille, enfin j'espère en tout cas. Ça fait bien en tout cas de dire Albert Camus.
C'est excellent. Eh bien, écoute, merci. Bienvenue, du coup, sur le podcast. Merci de prendre ce temps avec moi. Ce que je te propose, c'est que pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu commences par te présenter, s'il te plaît.
Alors, Rémi Camus, pour certains, je suis aventurier-explorateur. Pour d'autres, je suis un ancien maître d'hôtel dans la restauration. Aventurier-explorateur depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'ai fait 3 grosses aventures et je prépare la 4e, là, en ce moment même, sur... tout simplement la notion de la préservation de notre environnement et plus particulièrement de l'accès à l'eau. Potable ou non, mais déjà l'accès à l'eau.
Ok, donc aventurier, défenseur de l'accès à l'eau potable.
C'est venu en fait pendant l'aventure. Ma première aventure n'était pas axée sur l'écologie à proprement parler, c'était vraiment plus une découverte de mon moi intérieur et je voulais juste prouver à ma famille, à mes parents, à moi-même et aux autres, tu vois, que j'étais bien plus qu'un maître d'hôtel et que j'étais capable de faire plus que ça. Et du coup, ma première aventure, ça a été un dépassement dans tous les excès que j'aurais pu faire. Alors, j'aurais pu aller mourir.
On va en parler et on va mettre dans du détail, ça m'intéresse à fond. Ça te fait quel âge aujourd'hui, si c'est pas indiscret?
35 ans.
Et tu commences quand, du coup, l'aventure? Enfin, le programme, en tout cas, que tu tiens depuis...
L'aventure, je l'ai commencé, en fait, je ne peux pas me donner une date, tu vois. Si je dois reprendre, quand Mike Horn expliquait « Est-ce que l'on est aventurier ?» Mais j'en suis presque convaincu. Moi, j'ai grandi à la campagne, vraiment campagne profonde. Tu vois, il y avait 9 maisons, 35 habitants dans le trou du cul du monde. Je faisais 5 mètres et j'étais dans un chemin. Je faisais 30 mètres et j'étais dans une forêt. Et on passait nos week-ends, on n'avait pas le droit, nous, d'être à la maison quand il faisait beau, c'était tu vas dehors, ouais, mais je ne sais pas quoi faire, et tu prends un marteau, puis tu te tapes sur tes 10 doigts, comme disait mon père. Tu vois, super, mais quel programme! Et donc, je chopais mon voisin qui s'appelait Jimmy, et on partait dans la forêt, et on s'occupait, tu vois, et dans la forêt, on construisait des cabanes, et on faisait que ça. Donc, j'ai été rattrapé par le temps, par un aspect qui est tout simplement financier, il fallait faire des études, observant ma maman quand j'étais petit, parce qu'elle faisait de la cuisine, et elle cuisinait trop bien et tout, et puis tu vois, les petits oignons ciselés dans le beurre, avec un petit peu d'huile d'olive, ça avait une odeur tellement agréable que j'ai voulu en faire un métier, donc j'ai été à l'école pour apprendre ça, et après forcément, tu te fais rattraper par le cours de la vie, il faut gagner de l'argent, donc j'ai fait ça pendant des années, et c'est juste la lecture d'un livre qui m'a remis, entre guillemets, sur, dans mon passé, de me dire, mais Rémi, en fait, t'étais comme ça avant, et vas-y, fais-le maintenant. Vis, du moins, va essayer de vivre de ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai vraiment eu le déclic, j'avais 20, 25 ans, et, mais j'ai toujours eu ça en moi.
Et ce déclic, il se fait, passage, tu m'as dit, de maître d'hôtel à l'aventure. Tu te lances en démissionnant complètement ou la première, c'est un espèce de vacances, tu vois, avant de recommencer ton travail?
Non, parce que la première aventure a été vraiment un choc brutal. Mais avant de faire l'aventure en tant que telle, ma première aventure, j'ai eu plein de petites choses. C'est-à-dire que j'ai commencé la restauration, j'ai travaillé un peu partout en France, dans des restaurants étoilés ou non. J'ai fait des saisons au bord de mer, en montagne. Et à l'âge de 21 ans, j'étais tellement énervé de voir mon collègue qui parlait comme une vache espagnole et qui arrivait à prendre les commandes. Et on sait toujours que lorsqu'un client étranger, notamment anglais, lorsqu'il vient dans ton restaurant et que tu lui prends la commande, la plupart du temps, le client laisse 10% de la note parce que dans les pays anglo-saxons, c'est comme ça. Et dans la restauration, c'est celui qui prend la commande, qui chope le pognon. Et mais j'étais rageux de voir le mec qui récupérait ses 25 euros alors qu'il avait juste pris une commande en sortant 2-3 phrases en anglais. Et je me suis dit, c'est juste pas possible. Et je me suis mis un coup de pied aux fesses et je suis parti donc en Angleterre. Et de l'Angleterre, j'ai rencontré un mec, mon manager qui s'appelait Gary Nichols, qui m'avait conseillé de partir en Nouvelle-Zélande. Il me disait, Rémi, moi à ton âge, j'étais en Nouvelle-Zélande. Ben ouais, ça a l'air sympa. Du coup, j'ai regardé sur l'ordinateur qui était avec un écran énormissime et tout, et que je regardais sur quelques photos sur Google. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que je suis parti un mois et demi après, j'ai donné ma démission et je suis parti en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai eu déjà un premier voyage en Nouvelle-Zélande pendant 8 mois. Ensuite, de la Nouvelle-Zélande, je suis revenu un petit peu en Angleterre. J'ai rencontré quelqu'un, on est parti vivre en Pologne. De la Pologne, j'ai réussi à la persuader de m'accompagner. Donc, on est parti faire un road trip en Australie, où on a vécu pendant 9 mois en Australie, puis ensuite l'Asie du Sud-Est. Donc, on va dire que ça n'a pas été un choc brutal entre je suis porteur d'assiettes et un an après, je me vois faire ma première aventure. Il y a eu des étapes qui m'ont permis de me dire, en fait, de me sentir très à l'aise à vivre dehors, dans la nature, de vivre juste à même le sol, etc. Et je me suis dit, en fait... La bascule, elle va pas être trop compliquée à réaliser, quoi.
Et alors, du coup, ça commence par quoi? C'est ce programme de 10 ans d'aventure, du coup, c'est quoi la première?
J'ai lu un bouquin d'un franco-marocain qui a traversé l'Amérique en courant. Et j'ai lu le livre en une nuit, et c'est ça qui m'a en fait donné le déclic, me dire, bon, allez, maintenant c'est ton tour. Tu vas faire également, tu vas traverser un pays en courant. Ouais, c'était juste l'idée sans savoir vraiment ce que ça allait être, où, comment, etc. Il a fallu des mois pour mûrir le projet, des mois d'entraînement, en tout 8 mois pour pouvoir y arriver, pour trouver les autorisations, etc., le tracé, le parcours, où commencer, comment trimballer son matériel, etc. Et donc, j'ai mis 8 mois pour me décider de vouloir traverser l'Australie en courant, de Melbourne jusqu'à Darwin, ce qui représente 5400 kilomètres. Voilà, tout seul, en totale autonomie, pour aller rencontrer les aborigènes. J'ai passé 25 jours dans 2 communautés en tout, et puis en même temps, je l'ai fait pour une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Love, une maladie génétique qui touche les garçons, et dont je suis le parrain de l'association française depuis 2018.
Eh bien, tu mets combien de temps pour faire 5400 km comme ça en courant?
C'est rapide et lent à la fois, tu vois. J'ai mis une centaine de jours. J'ai mis 100 jours pour faire Melbourne-Darwin avec ma petite remorque. En fait, quand je disais que j'étais en totale autonomie, c'est qu'il fallait emmener mon eau et ma nourriture, tout. Et je pouvais pas avoir un véhicule avec moi, etc. Donc, on a construit une remorque avec mon papa en France qui a été terminée 2 jours avant le départ. Et on a chargé la remorque à l'arrache dans une grosse valise, tout ça. Enfin, c'était tout un vrai merdier. Et je suis arrivé à Melbourne. J'ai tout déballé, j'ai tout préparé. J'ai dormi 5 jours sur Melbourne. J'ai chargé toutes mes affaires et je suis parti avec ma remorque qui pesait une 40aine de kilos.
Ah, donc tu tractes 40 kilos en courant?
Ouais, bah ouais, il fallait que j'emmène la nourriture et l'eau dans le désert.
Ah, comment tu recharges du coup d'ailleurs? Tu t'arrêtais dans certaines villes, tu t'arrêtes le soir ou c'est du non-stop? Comment ça se passe?
Non, 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 en fait, je me levais le matin, j'essayais en fait de respecter non pas que le soleil, mais plutôt le cycle des moustiques et des mouches. Les moustiques ont un temps d'arrêt et les mouches ont un temps de latence avant de démarrer, qui est à peu près d'une heure, ce qui me laissait le temps de me réveiller, de tout ranger et de commencer à partir. Donc ça tournait autour de 6h, 6h30 le matin. Et je courais comme ça des fois jusqu'à minuit, 1h du matin. Enfin, voilà, je faisais des 15, 16 heures, 17 heures de course dans la journée. J'ai très très peu dormi en Australie. Mais je trimballais mon matériel avec moi, donc ma remorque, en plein milieu du désert. Et la recharge était parfois très simple, parce que entre deux, ce qu'on appelle des roadhouse, les aires de repos avec où on peut recharger. Et de la nourriture et son essence, dormir un peu, etc. Il y avait toujours des points d'eau. Donc, je savais qu'à peu près tous les 300 km, j'avais des points d'eau, mais c'était jamais suffisant pour pouvoir tenir le coup, sachant que ma remorque faisait que, elle avait une place assez petite, et donc je pouvais pas non plus trimballer 300 litres de flotte avec moi. Donc, souvent, les gens s'arrêtaient pour me donner à boire. C'était la chose la plus difficile, c'était trouver de l'eau. Et puis après, pour la nourriture, j'essayais de me débrouiller avec ce que j'avais. Et puis ensuite, je chassais. J'étais plus souvent opportuniste que chasseur. Lorsqu'un animal était écrasé devant moi ou que l'animal en question que je voulais manger apparaissait devant moi, j'étais plus opportuniste à aller tuer un serpent qui passait devant moi plutôt que de chercher et chasser pour pouvoir me nourrir. Donc, c'était vraiment être pragmatique et opportuniste. Enfin, c'est ce que je dis très régulièrement lorsque je fais mes stages de survie. Je suis formateur en survie. C'est ce que je dis aux stagiaires. Soyez pragmatique et opportuniste. N'essayez pas d'aller chasser et l'animal court plus vite que vous.
On va en reparler après, peut-être de la survie, mais ça veut dire quoi être qu'est-ce que tu vas donner comme leçon quand tu parles d'être formateur en survie?
En fait, c'est utiliser ce que j'ai appris moi pendant toutes mes aventures et puis le retranscrire. Et c'est un peu grossier comme mot parce que stage de survie, ça veut rien dire en fait. Parce qu'un stage, c'est là où on apprend et de la survie, c'est parce que tu es presque mort et tu veux juste survivre pour pas mourir. Donc c'est juste un mot accrocheur pour avoir quelque chose d'un peu plus commercial. Mais moi, j'appelle ça de la reconnexion avec la nature. Donc j'apprends aux stagiaires à vivre dans la nature, à se reconditionner, à comprendre, à être reconnecté avec l'environnement. Donc on leur apprend les rudiments de la vie en pleine nature, comment faire du feu, comment trouver de l'eau, comment la purifier, comment reconnaître des plantes, comment observer, comment chasser. On leur présente certains pièges. Ça reste du braconnage. On leur explique bien que si vous le faites et que vous vous faites attraper, il faut vraiment que ça soit de l'extrême nécessité de devoir chasser, donc comprenez que c'est puni par la loi, mais on leur explique voilà comment se débrouiller en pleine nature quand on est dans une situation problématique. On leur enseigne les gestes de premier secours, comment appeler rapidement ou passer l'alerte. On leur apprend à franchir une rivière avec des moyens simples. On leur apprend à fabriquer un brancard. On leur apprend à monter un bivouac avec du matériel, sans matériel. On leur apprend également à recréer de la cohésion de groupe. Et donc, c'est plutôt des bons moments de partage.
Ok, et comment tu fais pour devenir prof, coach de ça? C'est un diplôme particulier? Il y a une école de formation ou c'est plus ton expérience que tu partages?
C'est intéressant ce que tu balances un bon pavé dans la mare. Actuellement, il y a une grosse problématique qui tourne autour de la survie. Parce qu'il n'y a aucun diplôme, ça n'existe pas les diplômes sur la survie. Tout le monde y va un petit peu à tâtons, chacun avec plus ou moins de connaissances. Vu qu'il n'y a pas de diplôme, chacun peut affirmer « je suis formateur en survie ». Donc après, on n'est pas limité par les moyens, c'est-à-dire que tu peux toujours donner plus. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est que avec les quelques personnes avec qui je travaille, c'est que on essaye de faire au maximum. Donc moi, j'ai un BPJEPS de coach sportif, par exemple. J'ai un PSE1, un PSE2, j'ai un BNSSA, je suis nageur-sauveteur en mer. J'ai des diplômes qui me permettent, entre guillemets, de pouvoir encadrer des gens, mais dans la nature, ça reste un diplôme qui n'existe pas à l'heure actuelle. Qui a un diplôme qui te permet d'utiliser un couteau? Qui a un diplôme qui te dit « moi, je suis expert du feu ». Ouais, mais t'es pompier, c'est normalement le pompier, il éteint le feu. Enfin, et du coup, ça reste très ambigu. Donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment l'expérience qui prime avec quelques diplômes d'encadrement. Voilà.
Ok. Comment tu fais pour te faire connaître, du coup, en tant que professeur? Enfin, comment on vient te contacter? Est-ce que c'est, encore une fois, opportuniste ou est-ce que tu vas être référencé parmi, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tant que professeur quelque part?
Bah, on peut pas être référencé. Après, l'avantage qu'on a, c'est que le monde de la survie et de l'aventure est un milieu très petit. Et donc, forcément, lorsqu'on va regarder un petit peu sur le net les quelques références, bah, on tombe toujours sur les mêmes personnes. Donc, ça va, c'est assez facile, entre guillemets, d'être référencé là-dedans. On doit être, allez, si on est une trentaine en France à vraiment faire ça, ça doit être le tout, quoi. Donc, c'est assez simple pour se faire référencer. Après, les expériences que j'ai eues dans le passé, mes trois aventures, m'ont permis de pouvoir avoir une légitimité plus facilement dans ce domaine-là.
On peut en parler du coup de ces deux autres que donc on vient d'expliquer un peu la traversée de l'Australie. C'est quoi les deux suivantes?
Alors, traverser l'Australie en courant et en fait, les deux autres aventures découlent de cette première aventure. Pendant la traversée de l'Australie, j'ai souffert de plein de choses. Déshydratation, je me suis fait mordre par une araignée, une redback qui est la femelle, c'est une araignée femelle, donc qui est ni plus ni moins très proche de la veuve noire. J'ai souffert de douleurs au niveau des genoux, au niveau des pieds. La chaleur écrasante du soleil qui brûle avec des températures de 50 degrés, température au sol, on montait des fois à 65, 70 degrés, manque de nourriture. On a tout, je me suis fait chasser pendant presque une semaine par un dingo qui me tourne autour jour et nuit, attendant simplement que je tombe par terre pour appeler les autres pour qu'ils viennent me bouffer. Enfin, ouais, c'est un milieu qui est particulier. Mais ce que je retiens le plus dans cette aventure, c'était le manque d'eau. Parce que j'ai failli en crever en plein désert, à tenir 4 jours sans boire. Et en fait, c'est ça qui m'a donné cette envie de pouvoir continuer sur la thématique de l'eau. Donc, hein, j'avais déjà fait quelque chose en courant. Je ne voulais pas refaire la même chose. Je trouvais qu'on pouvait passer des messages autrement qu'à la course à pied. Du coup, je me suis mis sur un autre projet. J'avais compris ce qu'était la rareté de l'eau en Australie. Je voulais voir ce qu'était l'abondance de l'eau. Donc vraiment faire son opposé. Et j'ai monté mon projet, j'ai mis 1 an et 4 mois pour tout organiser, obtenir les autorisations, les visas, etc. Et je suis parti au Tibet et j'ai descendu le fleuve Mekong en hydrospeed, donc un flotteur en mousse où on met les bras à l'intérieur et qui ressemble à la même pratique que le kayak. Et j'ai descendu le fleuve sur 4400 km pendant 6 mois pour aller rencontrer les gens et comprendre un peu leur mode de vie autour de l'eau, autour du fleuve, l'importance qu'a ce fleuve pour eux sur le transport, sur la culture, la riziculture. Et puis on se rend compte que c'est un fleuve qui est problématique écologiquement, géopolitiquement parlant, avec les barrages hydroélectriques qui sont construits notamment par la Chine au début, et puis maintenant certains pays, notamment au Laos, commencent à développer les barrages hydroélectriques, coupant complètement tous les villages, tous les pays qui sont en aval, comme le Cambodge, le Vietnam, d'une source très importante, le Mékong, sur la quantité et la qualité d'eau. Et puis sur l'aspect socio-culturel, on voit des grosses différences entre les pays.
Toi, tu ne fais pas les choses à moitié, quoi. C'est tout le temps du 4000 km, 5000 km.
Ouais, mais c'est parce qu'il faut vraiment s'imprégner, tu vois, et rencontrer les gens. Et en plus, tu vois, je prône la micro-aventure également parce que c'est quelque chose qui est très important et qui permet de faire un peu de dépassement de soi et de sortir de sa zone de confort très rapidement sur un espace très court. Mais ce que j'apprécie, moi, dans mes aventures, c'est d'être vraiment en immersion totale longtemps, d'être complètement coupé, d'être déstabilisé de la vie qu'on a de tous les jours. Et ça a été pour moi une expérience très particulière, la descente du Mékong. J'en ai chié comme jamais, des mal de dos horribles.
On revient dessus juste après, excuse-moi, je voulais juste revenir sur un point intéressant et promis, on continue. T'as parlé de 4 jours du coup dans le désert, avec ce risque du coup de failler, t'as failli en mourir finalement avec ce manque d'eau.
C'est ça.
C'est quoi le ressenti ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois, pendant cette période-là ? Comment ça évolue d'ailleurs ?
T'as plusieurs aspects. T'as un aspect physiologique. Alors, tu cours, t'es déjà beaucoup moins fort physiquement. Tu vois, tu commences déjà à sentir une certaine faiblesse. Tu cours moins vite. Physiologiquement, tu sens des douleurs parce que tu en manques d'eau. Tu as également cette vision qui se rétrécit tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ce qu'il y a sur les côtés, tu le vois plus. Tu vois, ça se réduit à juste un champ droit comme un tunnel. Tu as la bouche pâteuse. T'arrives plus à avaler, t'arrives plus à saliver. T'arrives plus à réfléchir aussi. Ça, c'est un aspect qui est très particulier parce que ça peut par la suite être létal. Tu peux en mourir parce que tu vas aller jusqu'à faire une connerie. Donc tu commences à réfléchir un peu comme un lombric, tu vois, ou alors un bulot, tu vois, entre les deux, tu sais pas trop. Et il faut trouver les bonnes solutions au bon moment pour pouvoir progresser. Et tu vois, le quatrième jour, le matin, il devait être 9h, et j'étais dans un état pitoyable. C'est tout juste, tu regardes pas le fond de ta gourde et tu te fais, putain, ça va être compliqué là. Comment on va faire? Et j'ai pris mon trépied, j'ai posé mon trépied en plein dans le désert, sur le chemin, posé ma caméra, et je me suis mis devant et j'ai pris une photo. Et voilà, je me suis dit, dans tous les cas, si je viens à mourir, les personnes qui retrouveront mon cadavre retrouveront mon appareil photo, et la dernière photo qui sera sur l'appareil sera une photo de moi avec le sourire, parce que j'aurais vécu pleinement ce que je voulais et que c'était pas, tu vois, c'était pas le choix de quelqu'un, c'était mon choix. Et si je viens pas à mourir, eh bien j'aurai la preuve du moment où je me souviendrai, voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la merde. Et ça a été un choc assez particulier parce qu'après il faut te mettre même à réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Et j'ai toujours enseigné ça à mes stagiaires, de leur dire soyez pragmatiques sur vos choix. Essayez toujours de peser le contre entre l'énergie que vous allez déployer pour faire une activité et ce que ça va vous coûter physiologiquement. Et du coup, je suis arrivé sur une creek complètement asséchée. Et c'est un sentiment qui est très particulier parce que tu te dis, il y a une creek, donc il y a de l'eau normalement. Et si je creuse sous le sable, il y a la nappe phréatique, il y a un bout de ruisseau qui coule. Donc, je devrais trouver de l'eau. Sauf que c'est assez particulier, parce que tu creuses et tu sais pas si l'eau se trouve à 20 cm, ou à 50, ou à 4 mètres. Et donc, l'énergie que tu vas déployer, surtout quand il fait 50 degrés en plein cagnard, c'est pas du tout la même que quand il fait 20 degrés dehors et que t'es bien. Et donc, j'ai commencé à creuser, et c'est là où je me suis dit, voilà, ça devient ridicule parce que je suis en train de m'épuiser pour trouver quelque chose, et ça sera peut-être dans un mètre, quoi. Donc, je vais pas avoir le temps de creuser, je vais tomber avant. Et donc, c'est là où je me suis dit, on va commencer par faire quelque chose que je voulais pas faire, hein. Et c'est là où je me suis dit, on va pisser dans une bouteille. C'est la dernière chose que j'ai pour le moment. Donc, j'ai pissé dans une bouteille. Et c'est là où je l'ai bu, c'est tombé, j'ai tout vomi parce que c'était juste infâme. J'ai tout gardé dans la bouche, j'ai tout ravalé. Et c'est là où je me suis dit, ah, quand même, c'est violent. C'est quand même très, très violent. Et ça m'a permis de tenir pour pouvoir regagner un petit bout de route. Et il y a une voiture qui arrivait à ce moment-là. Et il m'a dit, you're right? Et je dis, ouais, ça va, ça va. Il dit, si tu continues par là, dans 10 km, tu as une petite maison. Et je vais les prévenir. Donc, tu pourras y aller et il y aura tout ce qu'il faut là-bas. Et je suis arrivé le soir là-bas. Et c'était un peu comme, t'as l'impression, un projet Blair Witch, tu sais, t'allais être sur le pas de la porte, comme ça, les bras croisés, t'avais la lumière qui passait derrière elle, il faisait nuit noire, et je suis arrivé, et la dame me voit arriver, elle me dit, I was waiting for you. Et c'était, tu sais, comme le Messie, tu sais, Dieu. Je fais, ah, merci. Elle fait, tu as peut-être faim? Je fais, soif. Et elle m'a donné une grande bouteille d'un genre de Fanta, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que j'ai dégommé la bouteille en même pas 20 secondes. Enfin, c'était impressionnant. Et pour revenir, tu vois, sur ce que c'est un conseil que je donne souvent à mes stagiaires, je leur dis, si vous arrivez dans une zone, enfin dans un moment très particulier où vous devez boire votre urine, réfléchissez bien avant. Gardez toujours un petit peu d'eau avec vous. Consommez votre urine et gardez l'eau après. Ça vous permettra de vous rincer la bouche et non pas de faire l'inverse. Parce que je vous jure, garder la journée entière avec le goût de la pisse dans la bouche, c'est vraiment pas agréable.
Bon.
Mais ça permet
note
voilà
de pour moi-même, de... je me le note aussi.
Exactement, note pour toi-même. Si un jour tu dois faire ça, Pierre Arnaud, ne jamais, jamais finir par de la pisse. Mais ça m'a permis, tu vois, cette sensation que j'ai eue, c'est ça qui m'a fait comprendre que l'eau est une ressource extrêmement importante et que on en a tous besoin pour vivre. Et je me rappelle quand j'étais gamin à l'école et qu'on me disait un corps humain est composé de 65-70% d'eau. Ah bon ? Pourtant, moi, je vois pas d'eau. Je vois de la peau, des poils, des os. Il y a pas d'eau. Et je l'ai compris en Australie. J'ai compris ce que ça voulait dire. Le corps humain est composé d'eau. Et je comprends certaines peuplades, certaines communautés, certains peuples perdus au milieu de l'Afrique qui se battent à coups de machette juste pour avoir l'accès à un puits. Parce que on comprend pas cette sensation du manque d'eau. Quand on est chez nous et qu'on a l'occasion d'ouvrir un robinet et de boire à pleine gorgée des litres et des litres d'eau, c'est facile. On peut se permettre de laisser couler le robinet pour se brosser les dents, on peut se permettre plein de choses parce qu'on a cette eau en abondance. Mais sur certaines parties du globe, elle n'est pas répartie au même endroit de la même façon et on pourrait tuer pour avoir de l'eau, vraiment. Et j'aurais pu tuer. Je pense que j'aurais peut-être une journée ou une demi-journée de plus, j'aurais pu tuer quelqu'un juste pour boire son sang.
Bien. Qu'est-ce que ça fait du coup de se retrouver du coup dans qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans les courants finalement du Mékong quelques années plus tard?
Entre les deux, forcément, il y a eu des mois qui se sont écoulés, même des années, parce que ça, je me suis entraîné pour ça. Donc c'est vraiment l'opposé, mais c'est là où tu te rends compte de l'eau, enfin toi, cette force qu'elle a, tu vois, on parle des éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, mais c'est juste impressionnant parce que ça peut être quelque chose de très doux. Tu vois, tu prends une douche, quelque chose qui coule sur ta peau, c'est agréable, et tu te retrouves dans le Mékong, où au début, ce n'est pas un fleuve, c'est une rivière qui est un torrent qui va à une vitesse de dingue avec des quantités de mètres cubes qui descendent, et tu te retrouves avec ton petit flotteur, là, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là? C'est juste pas possible. Quand tu vois des trous d'eau, des compositions où l'eau vient passer au-dessus d'une pierre et t'as un siphon énormissime derrière, tu fais mais c'est quoi ce truc-là? Tu pourrais y rentrer, un minibus rentrerait dedans, tu le verrais même pas. Et tu te retrouves là à descendre le fleuve Mékong. Donc c'est vraiment le côté très paradoxal, c'est-à-dire que j'ai failli mourir en Australie par manque d'eau et je vais peut-être mourir sur le Mékong parce qu'il y a trop d'eau. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est de vraiment de comprendre que elle est précieuse, elle est utile, elle est importante, mais voilà, elle peut également être une forme très destructrice.
Ouais. C'est ce que tu cherchais finalement, pas contradiction, mais cette opposé, comme tu en as parlé tout à l'heure.
Je cherchais l'opposé, non pas dans l'aspect de l'eau, mais je cherchais son opposé sur les peuplades qui bordent le fleuve, parce que je voulais comprendre comment est-ce qu'ils vivaient au quotidien avec ce fleuve, comment est-ce qu'ils le vénéraient. Et on se rend compte qu'il est utilisé pour plein de choses, le transport, le trafic, trafic de drogue, trafic de tout ce que tu veux, le trafic d'ail, ça m'avait juste choqué quand on m'avait dit un jour, il y a des bateaux qui passent la nuit, je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Mais trafic de l'ail. Ah ouais? Non, parce que chez nous, on trafique de la drogue, quoi, ça paraît logique. Mais non, le trafic de l'ail, c'est très drôle. Et tu prends cher pour ça si tu te fais attraper? Ah ouais, c'est perpète. Pour de l'ail. Ok, c'est intéressant. En fait, ils traballent l'ail de la Chine et ils traversent pour l'emmener en Thaïlande, mais illégalement.
Mais parce que la Thaïlande n'en cultive pas ou parce qu'ils n'ont pas le droit d'en manger?
Je sais pas du tout, mais ouais, j'ai pas approfondi le sujet là-dessus, mais il trafique d'ail. Et en fait, on se rend compte que c'est un fleuve qui est extrêmement important en Asie du Sud-Est. Et quand on arrive sur des grandes villes, ça paraît beaucoup plus simple parce qu'ils ont de l'accès à l'eau, etc. Mais quand tu es perdu au milieu de nulle part, dans des petits villages, les gens puisent l'eau du Mékong pour consommer, pour boire leur thé, pour faire cuire les nouilles, etc. Moi, ça m'avait choqué, je m'en rappellerai toujours, sur une maison, enfin une maison, un bout de truc flottant sur l'un des bassins de rétention d'eau. Et on m'avait invité à dormir chez eux. Et le mec sort de ce petit... Ça faisait comme un bungalow, si tu veux. Et il sort, il se met sur sa terrasse, il prend sa petite bouilloire, il met ça, il prend l'eau dans le fleuve, et hop, il met ça sur le feu pour faire bouillir l'eau. Et dans la soirée, je leur fais voir que j'ai mal au vent, tu vois. Hein, donc, ils me montrent les toilettes. Et là, je vais avec ma frontale, je vais dans les toilettes. Et en fait, j'ouvre juste la porte et t'avais juste... deux barreaux comme ça et deux barreaux comme ça qui étaient soudés, donc vraiment comme un hashtag si tu veux, au-dessus de l'eau, donc à 30 cm. Et je disais, c'est quoi le bordel? Et en fait, tu faisais tout et ça tombait dans l'eau. T'as les poissons qui venaient bouffer et moi j'étais là. Ah ouais, j'ai compris, le circuit court quoi. C'est ça en fait, c'est eux qui ont inventé le circuit court. C'est-à-dire qu'on prend l'eau, on la boit, les toilettes sont à 10 mètres et les mecs ils mettaient les filets pour aller pêcher les poissons. À même pas 100 mètres. Je fais, ah, mais c'est génial, c'est un circuit court, c'est-à-dire que vous consommez ce que. Ah, c'est génial, je trouve ça super. Et c'est là que ça m'a vraiment, tu vois, j'ai dit, ah, on est loin quand même, on est quand même très loin au niveau des cultures. Et je trouvais ça passionnant de voir des gens aussi en lien avec ce fleuve.
Parce que j'imagine que dans l'histoire, il y a également J'imagine que dans l'histoire, il y a aussi une partie pollution finalement dans la rivière que tu as pu observer, peut-être un peu plus en aval qu'en amont, je ne sais pas, mais...
Ouais, c'est un fleuve qui... D'ailleurs, je l'ai choisi également pour ça, parce que c'est l'un des fleuves qui est dans le top 10 des fleuves les plus pollués de la planète et qui continue d'augmenter en termes de pollution avec l'industrie qui se développe de plus en plus, notamment en Asie du Sud-Est, que ça soit sur la capitale du Laos ou à Phnom Penh, par exemple, au Cambodge, etc. Donc, on a de plus en plus d'industries qui se construisent. Les normes environnementales ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc on a plus de laisser-aller, etc. Mais la pollution, en fait, elle commence vraiment en amont, vraiment au tout début. En Chine, j'avais l'habitude de voir les camions récupérer les poubelles dans les villes, les petites villes, villages, tu vois, et ils sortaient, ils faisaient même 100 mètres hors de la ville, ils s'arrêtaient, ils se mettaient à cul, ils reculaient et ils déversaient tout dans le Mékong. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue de pas avoir ce recul. Et on est, tu vois, on faisait la même chose chez nous il y a 20-25 ans à peu près, où on avait encore des décharges à ciel ouvert. Enfin, moi, j'allais dans les décharges avec mes potes pour aller récupérer du cuivre, pour aller le vendre, tu vois, pour gagner 3-4 euros de seaux vendus de cuivre. Mais eux, ils déversent dans le fleuve. Alors, il y a faute d'éducation, faute de choix politique, hein, parce qu'économiquement, l'écologie, c'est pas quelque chose qui va te faire gagner de l'argent, peut-être plus facilement en perdre, mais qui valorise ton pays. Donc, on va pas... Se pencher sur l'écologie en premier. Et forcément, plus tu vas vers l'aval, plus tu t'approches de l'embouchure avec le delta du Mékong, premièrement, le Mékong s'élargit beaucoup plus. Quand tu es, par exemple, dans les Sipendon, les 4000 îles au nord du Cambodge, le Mékong, lorsque c'est la saison des pluies, le Mékong fait 14 km de large. C'est pas un petit fleuve, tu vois, ça coule, quoi. Et plus tu arrives vers la fin, et plus le Mékong prend une ampleur. Tu es dans le delta du Mékong, c'est un truc qui est énormissime. Et donc, la population augmente également. Au début, tu es en Chine avec des vallées très encaissées, et plus tu arrives dans le sud du Yunnan, et puis après tu attaques le nord du Laos, la Thaïlande, plus les montagnes s'effacent pour devenir des collines, puis tout doucement des grands champs, etc. Et on a donc une population qui augmente sur les rives à droite et à gauche, et tu arrives dans le delta avec une population qui est près de 10 millions de personnes qui sont là dans le delta du Mékong. Et au quotidien, ces gens contribuent malheureusement à augmenter cette pollution en déversant leurs déchets, que j'ai vu de mes yeux des gens qui venaient en bateau me voir avec les poubelles, qui versaient les poubelles juste à côté de moi dans l'eau, et de faire « Oh, je suis là les copains, c'est pas peine de balancer les trucs sur la gueule, quoi. » Et en fait, c'est une pollution qui est tellement importante que ça a été en fait le déclencheur de ma troisième aventure, parce que tous ces déchets, bah forcément, terminent tout doucement leur course dans les mers et les océans. En cherchant un petit peu des informations, j'ai retrouvé des chiffres de 634 tonnes de déchets déversés dans les mers et les océans chaque seconde. Donc, au début, j'ai dit, oh, c'est une connerie, quoi. Chaque seconde, c'est pas possible. Ça fait 20 milliards de tonnes par an qui sont déversées dans les mers et les océans. Mais par an, c'est impressionnant. Mais ça vient d'où? Et en fait, on se rend compte que les 10 fleuves les plus importants de la planète contribuent déjà à 50% de cette pollution dans les mers et les océans. Donc le Mékong en fait partie. Et donc je suis revenu en France avec cette envie de sensibiliser les gens et de leur montrer que ce qui se passe là-bas, c'est pas parce que les déchets sont déversés à l'autre bout de la planète, et notamment en Asie du Sud-Est, qu'ils vont pas venir chez nous. Alors c'était une image entre guillemets, mais on a des courants marins qui sont très forts et qui arrivent à charrier des déchets assez facilement. On parle du 7e continent où on imagine, alors je ne sais pas si les gens, je ne sais pas comment ce que vous, les auditeurs, vous imaginez un 7e continent, mais on ne marche pas dessus, hein. C'est vraiment comme une grosse mélasse, une grosse soupe, mais c'est, on ne peut pas marcher dessus. Mais en fait, des continents de déchets, ce qu'on appelle des gyres, il y en a plein. Il y en a un au nord de l'Espagne, entre Biarritz et le nord de l'Espagne. Il y a un gyre qui tourne, qui n'est pas énorme, mais il y a un gyre. Et en fait, j'ai voulu, voilà, pour ma troisième aventure, sensibiliser les Français, leur montrer vraiment l'importance de préserver notre littoral, nos mers et nos océans, de montrer que 80% des déchets qu'on retrouvait dans les mers et les océans provenaient de notre comportement et de ce qu'on faisait sur Terre, à jeter dans les ruisseaux, dans les caniveaux, une clope par terre, etc. Et je suis parti donc de Dunkerque, et j'ai nagé 2650 km en longeant le littoral français jusqu'à Monaco pour voilà sensibiliser les gens, leur montrer vraiment l'impact de l'humain sur notre environnement.
Toujours sur des petites distances, hein, ça c'est.
Mais tu vois, je régresse. J'ai commencé par 5400 en Australie, là, après 4400 sur le Mékong, 2650 sur le Tour de France à la nage. Si tu vois ça continue, je vais finir en marche arrière. Ça va pas.
Ah hein. La vache.
Faut que je me reprenne.
Tu mets combien de temps là pour faire cet énorme tour?
3 mois et demi.
Ok.
Ouais, c'était très très long, avec très peu de pauses. Hein. On s'est arrêté 6 fois, je crois, sur le tour de France.
Tu faisais des étapes. On, excuse-moi, parce que
j'avais une équipe. J'étais seul à nager. Et c'est pour ça que je dis toujours, le Tour de France à nage, on l'a fait à plusieurs. L'Australie, je l'ai fait tout seul. Le Mékong, je l'ai fait tout seul, mais le Tour de France à la nage, je l'ai fait à plusieurs parce qu'il y avait une équipe qui m'assistait sur la partie nautique pour la sécurité, notamment les chenaux à traverser de certains ports de France qui sont énormes. Et puis j'avais un véhicule terrestre qui permettait d'aller rencontrer les municipalités, etc., dans toutes les villes dans lesquelles on s'arrêtait. Et donc on était toujours une équipe de entre 5 et 10 personnes à chaque fois pour faire le littoral français. Donc c'est pour ça que je dis on a fait le littoral à la nage. Mais ça a été une très très belle aventure, très difficile d'un point de vue physique certes, mais d'un point de vue mental, parce que la différence entre le Mékong et l'Australie, c'est que le pouvoir du regard, de la vue, il est extrêmement intéressant parce que c'est celui qui te permet d'analyser plein de choses. Quand tu vas, regarder une personne en train de manger une glace à la vanille, même si tu n'as pas l'odeur, eh bien, parce que tu as déjà vu ce que c'était une glace à la vanille et tu l'as déjà goûté, en regardant, tu as déjà l'odeur de la vanille et tu arrives déjà à un peu assimiler ce que ça peut être. Et donc, sur le Mékong, et en Australie, c'était un peu ça. Je courais et quand je voyais, par exemple, au loin une carcasse d'un animal en train de pourrir sur le bas-côté parce qu'elle avait été percutée par un camion ou bouffée par une bestiole, eh bien, je savais que quand j'allais passer à côté de cette carcasse, j'allais sentir la mort, j'allais sentir une viande en train de pourrir sur le bas-côté. Quand tu es dans l'eau, en train de nager, quand tu as la tête dans l'eau, tu vois des bulles, tu vois que c'est bleu, alors en Méditerranée, parce qu'au début, tu vois entre 3 et 4 cm et rien plus, donc tu n'as presque aucune visibilité. Si en plus, tu as un gros brouillard qui s'est levé, tu vois pas à 25 mètres. Des fois, je gueulais parce que le bateau de sécurité, il partait un peu plus loin pour voir où est-ce qu'il fallait aller. Et il disparaissait. Je fais, merde, mais ils sont où? Et je pouvais ni voir la côte. Enfin, c'était impressionnant. Et tu n'as pas de Louis. Tu as la tête dans l'eau, t'entends juste blou, 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 blou. Le goût, il est complètement altéré parce que je nageais avec un double tuba, donc je pinçais. Donc mes papilles gustatives, elles étaient complètement imprégnées, baignées dans l'eau salée, donc je sentais juste de l'iode et c'est tout. Le nez, il était complètement pris. Alors j'arrivais un peu, entre guillemets, à respirer par la bouche, vu que tout est connecté, et j'arrivais à sentir un peu l'iode et le pot d'échappement du bateau qui me suivait lorsqu'il passait un peu trop près. Et après, sur le toucher, tu es sur un environnement qui fait que bouger. Donc, du coup, tu mets ta main et ça bouge. Et donc, tu es dans un environnement un petit peu coton quand la mer est calme. Mais quand la mer est déchaînée, c'est juste un enfer. Et ça a été une aventure mentale très, 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 très dure. Lorsque j'ai fini l'Australie, j'ai pas eu trop de difficultés à m'en remettre après l'aventure. Donc, j'ai eu quelques jours où je me levais des fois à 3h30, 4h du matin, je m'habillais et je disais, ah non, c'est bon, c'est fini, on se déshabille, arrête, c'est fini. Le Mekong, je me réveillais la nuit, tu vois, pour regarder si toutes mes affaires étaient encore là, s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas des autorités qui venaient m'emmerder. Enfin voilà. Le Tour de France à la nage, pendant presque un mois et demi, deux mois, j'ai fait une dépression, quoi. Ça n'allait pas du tout parce que j'avais tellement poussé mentalement le fait de rester dans l'eau toute la journée à nager, parce que je nageais 12 heures dans la journée. Et tu vois, c'est énorme, tu vois, tous les jours, 12 heures. Quand j'ai terminé à Monaco, j'étais complètement déphasé. Moi, j'ai déposé des bénévoles à la gare de Lyon. Je suis arrivé, on s'est garé à côté du Rhône. J'étais en jean. Il faisait super beau, tu vois, c'était mi-septembre, donc j'étais en jean, pieds nus, torse nu. Je voyais des voitures qui roulent à fond la caisse, et je me demandais où, qu'est-ce qui se passe, tout, je suis perdu. Je savais pas où j'étais. Pour moi, j'étais dans un autre monde.
Parce que on est d'accord que la partie, tu fais un petit saut finalement entre l'équivalent de Biarritz, Saint-Jean par là-bas là. Et,
c'est ça, j'ai fait Hendaye et je me suis remis à l'eau à Cerbère.
C'est ça.
Exactement.
Ouais. Ok.
J'ai vraiment fait le littoral français. J'ai pas attaqué l'Espagne, le Portugal, parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés à passer le détroit de Gibraltar. Enfin, à mon avis, ça aurait été une sacrée aventure là.
Eh bien, trois très très belles aventures. Alors moi, j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est comment tu fais pour en vivre ? Toi, est-ce que tu fais un métier à côté ou est-ce que c'est ça qui te permet de ton quotidien ? Comment t'en vis ?
C'est très particulier de dire je suis aventurier explorateur et je gagne ma vie, tu vois, parce que quand tu trouves du sponsoring, des partenaires pour une prochaine aventure, ils vont te parrainer juste pour cette aventure. Ils vont pas dire on vous paye pendant 5 ans et puis allez-y, profitez, amusez-vous, hein. Eux aussi ils ont des budgets à tenir, donc il y a plein de choses qui me permettent de pouvoir vivre entre guillemets de l'aventure. Donc je suis formateur en survie, ce qui me permet de donner des stages et de partager mon quotidien, donc ça me fait une rentrée d'argent. Également je suis présentateur sur une émission sur France 3, donc ça me permet d'avoir une rentrée d'argent. Je suis coach sportif, donc ça me fait une rentrée d'argent. Je suis également conférencier, que ce soit dans les écoles mais en entreprise, à faire du team building, donc ça me fait une rentrée d'argent. Et puis après j'ai des contrats à l'année avec des partenaires avec qui je travaille sur mes aventures, mais qui me rémunèrent sur l'année, si tu veux. Donc c'est ça qui, mis bout à bout, me permet d'avoir un semblant de salaire pour vivre de mes aventures. Maintenant, ça fait, je dirais, 2 ans vraiment que je vis vraiment de ma passion et de l'aventure. Avant, c'était une vraie galère. C'est-à-dire que je travaillais la journée sur mes projets, je faisais de l'intérim la nuit, je dormais 3-4 heures, je repartais à travailler. Enfin, pour réussir à avoir un peu d'argent à la fin du mois, tu vois, que ça soit vraiment juste pour te nourrir et puis c'est tout. Donc, ouais, c'était une vraie galère. Quand je vois des personnes qui me contactent parce qu'elles souhaitent devenir aventurier explorateur, je leur dis, la plus grande qualité, pour moi, ce serait c'est la persévérance. C'est-à-dire que si tu es convaincu de tes capacités, de ton projet, faut persévérer, mais faut jamais lâcher. Et je leur dis, j'ai mis plus de 8 ans pour y arriver. Donc, faut vraiment...
Tu t'es fait accompagner d'ailleurs, t'as eu un coach pendant ce temps-là. Comment t'as fait pour progresser dans ces trucs-là, du coup, finalement ?
Je me suis débrouillé tout seul sur plein de choses. Maintenant, je travaille avec plein de personnes qui m'aident au quotidien, mais je me suis débrouillé tout seul. À force de demander, est-ce que forcément ça marche pas, donc t'apprends. Comment on fait un site internet, je sais pas, c'est pas grave, je vais apprendre. Je vais perdre une semaine, je vais me débrouiller, je vais le faire moi. Comment on fait pour faire des démarches administratives là-dessus, je sais pas, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Comment on fait pour être community manager, tu demandes, ça marche pas, ok, je vais le faire moi. Et d'un côté, ça me permet aussi de comprendre l'univers dans lequel je suis en train d'évoluer. Et quand je travaille avec des personnes et qui me disent « Ah, mais je pense pas qu'on puisse faire ça. » Si, on peut le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, si moi, je peux le faire, toi, c'est ton métier, donc fais-le. Et ça me permet d'être plus légitime. Mais je suis quelqu'un, j'adore apprendre. J'adore apprendre plein de choses, etc., que ce soit par de la lecture ou par de la pratique à travers des sites internet, même de la recherche sur le net. J'adore apprendre parce que je trouve que c'est passionnant. Et se relancer dans un nouveau projet, forcément, on réapprend de nouvelles choses et c'est ça qui est intéressant, parce qu'après, on peut le partager.
Entendu. Trop bien. T'as des personnes que tu peux admirer en particulier, Rémi, des gens qui t'inspirent au quotidien, je sais pas.
Alors, au quotidien, c'est assez drôle parce que c'est beaucoup de personnes qui ne sont plus là, malheureusement. Il y avait Mallory, la première personne à avoir tenté de faire l'Everest. On a retrouvé son cadavre. Edmund Hillary et Tenzing, les premiers qui ont réussi en 1953 à faire l'ascension de l'Everest. Sir Stuart, qui a tenté de faire la traversée Melbourne-Darwin, si tu veux, sud-nord en Australie. Mais avant, il n'y avait pas de route. Il n'y avait rien. C'était juste, on trace, ça va pas plus loin. Et en fait, ce sont ces personnes-là que je trouve inspirantes. La famille Picard, que ce soit le grand-père, le père, ou même Bertrand Picard maintenant avec son projet Solar Impulse. Mais je me rappellerai toujours du projet avec la famille Picard sur le bathyscaphe, de vouloir descendre dans la fosse des Mariannes avec un engin. C'était juste impressionnant. Surtout à cette époque, et ils ont réussi. Et en fait, c'est les pionniers que je trouve passionnants, que je trouve admirables. Et c'est ça qui est des fois qui me remet droit dans mes bottes et de me dire, je suis juste un petit aventurier en fait, parce que celui qui a fait l'Everest en 1953 et qui en est redescendu, les deux, fallait avoir une sacrée paire pour pouvoir monter en 1953 avec ce genre d'équipement. Traverser l'Australie sans route, sans rien du tout, juste avec des chevaux. Il y a eu des morts pendant la traversée, etc. C'est juste incroyable de pouvoir faire ça. Et c'est ce genre de personnes que je trouve inspirantes.
C'est clair que ce ne sont pas des personnes qui laissent c'est quoi le mot ? Indifférent. Clairement,
complètement. Il y a une vraie passion, tu vois, et ils ne le faisaient pas forcément pour la gloire ou pour ils le faisaient pour parce qu'ils étaient c'était passionné, tu vois, sur un autre domaine, tu vois, Einstein, il faisait les choses par passion, et je trouve que c'est encore plus valorisant.
tu tu fais, alors peut-être pour prendre un peu le côté philo, est-ce que tu penses pas que avec tout ce que tu fais, qui sont du coup des exploits que peut-être d'autres n'ont pas fait avant, est-ce que tu penses pas qu'il y a un aspect un peu peut-être too much, tu vois, de toujours aller chercher plus loin, et que on est un peu, tu vois, dirigé par la quête de la performance tout le temps.
Je recherche pas du tout la performance en tant que telle. C'est une question qui est intéressante parce que quand on fait ces aventures, il y a toujours une part d'égoïsme parce qu'on fait des choses pour soi aussi. Moi, j'aime me retrouver dans des situations compliquées parce que ça me permet d'être vivant. Mais les aventures que j'essaye de réaliser, j'essaye de les faire pour porter un message parce que sinon, il n'y a aucun intérêt en soi à vouloir le faire si c'est juste pour son ego personnel. J'ai envie que les gens prennent conscience de la beauté des choses, de la beauté de la planète et qu'il faut la préserver le plus rapidement possible, et pas demain, mais hier. Et donc, mais je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein de personnes qui ont fait de jolis projets comme ça, qui ont pu mettre en avant la beauté de la planète et j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans, peut-être 3 ans au moins, que les gens commencent à prendre conscience vraiment de l'importance de préserver tout ça et qu'il va bien falloir changer pour pouvoir laisser quelque chose de joli à nos enfants. Donc je suis content, entre guillemets, de pouvoir contribuer, d'apporter ma petite pierre à l'édifice, ma petite goutte d'eau dans l'océan et de me dire bah, j'ai essayé de faire ma part du travail en tout cas.
Trop bien. C'est quoi du coup les prochaines étapes pour toi là ? C'est quoi les prochains projets que tu as en tête ? Est-ce qu'il y a une quatrième expédition prévue ?
Alors il y a une quatrième expédition qui est prévue. Après, on verra en fonction du Covid comment les choses évolueront, notamment sur l'aspect financier parce qu'il faut trouver des partenaires. Ouais. Donc, pour le moment, on est en bonne voie. Il y a pas mal de choses qui bougent et des partenaires avec qui je travaillais qui sont toujours à mes côtés. Mais on a encore besoin encore plus d'argent. Le but, ça serait de pouvoir faire une traversée entre Calvi et Monaco. Donc, toi, quand je te disais que je régressais sur les chiffres, c'est parce que c'est exactement ça. Donc, Calvi-Monaco à la nage, ça fait 170 km. Mais on le fait en totale autonomie. On est en train de construire une plateforme exprès. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis presque 2018. Hein. Lorsque j'ai fait mon tour de France à la nage, je m'étais posé la question, est-ce qu'un être humain serait capable, j'en ai aucune idée, tu vois, c'est vraiment repousser ou ouvrir les portes de l'impossible, mais est-ce qu'un être humain serait capable de faire un tour du monde à la nage ? Ça paraît juste complètement dingue, tu vois, tu pars de La Rochelle et, je sais pas moi, 4 ans, 5 ans plus tard, tu reviens à La Rochelle et tu as fait un tour du monde à la nage. Et je trouvais ça juste complètement dément. Et du coup, on ouvre les portes de l'impossible. C'est est-ce qu'un être humain est capable de nager seul, sans assistance, sans que personne vienne l'aider, et en se débrouillant pour l'eau et la nourriture. Et donc, on va faire Calvi-Monaco. C'est une traversée qui est pas très longue, 170 km. Et on est en train de construire une plateforme. Hein. On a déjà la maquette qui est déjà terminée, que je vais recevoir dans quelques jours, avec lequel on va travailler dessus sur la version finale. Je vais transporter mon eau et ma nourriture pour faire cette traversée. Et puis, je serai accompagné avec un 47 mètres, un 3-mâts, un gros bateau de l'association Wings of the Ocean, qui s'appelle le Kraken, qui travaille également sur la pollution plastique qu'on retrouve dans les mers et océans, parce que c'est un combat qui me tient à cœur depuis tout ce que j'ai pu voir à partir même de l'Australie, hein, avec tous les déchets que je pouvais retrouver dans le désert, puis ensuite sur le Mékong et puis sur le littoral français. Donc de continuer de sensibiliser encore et encore, de montrer vraiment l'impact de l'humain sur notre environnement et de le faire avec de la collecte de déchets qu'on peut retrouver dans les mers et océans. Donc voilà, c'est vraiment un projet. Je m'engage en quelque chose dont je sais même pas si c'est réalisable parce que ça n'a jamais été fait. On n'a jamais. Plein de personnes se sont lancées à faire des défis. Je crois que c'est une femme qui détient le record de la plus longue distance de nage sans s'arrêter. Je crois que c'est de 200, je vais peut-être te dire une bêtise, hein, 220, 230 kilomètres. C'est juste complètement un truc de dingos.
Ouais.
Mais elle était accompagnée avec un bateau qui lui permettait de lui donner de l'eau, de la nourriture, etc., etc. Là, je me retrouvais dans des conditions où il y a personne qui vient me donner de l'eau. Si moi, je filtre pas mon eau de mer, je désalinise mon eau de mer si je le fais pas pour avoir de l'eau douce, personne le fera pour moi.
Mais donc, pas le bateau de 43 pieds dont tu parles, là?
Ah, il est juste là pour la sécurité. Il va juste être là pour contacter les paquebots, les cargos, comme quoi il y a un mec qui est en train de nager. Donc faites attention, écrasez-le pas tout de suite. On a encore besoin de lui. Mais ils vont pas être là pour m'apporter et l'eau et la nourriture. Ils seront juste là pour filmer, pour prendre des photos. Mais sur l'aspect purement de la traversée, et je suis tout seul sur les entre 10 et 15 jours de nage.
Ah la vache.
Ça risque d'être très très dur. Sur un aspect mental, en fait. Je travaille avec mon préparateur physique depuis maintenant presque 3 mois et demi, 4 mois là-dessus. Et en fait, on ne sait pas du tout quelle est la dépense énergétique d'une personne, parce que cela varie en fonction de plein de choses, mais en fait, on ne connaît pas la dépense énergétique qu'une personne va avoir entre une personne qui va nager, une personne qui sera plus résistante au froid, etc. Parce que on a estimé à peu près à entre 5 et 7000 calories par jour pour la partie nage. Mais après, l'énergie que je vais dépenser le soir pour désalinaliser mon eau, pour manger, pour dormir, pour faire mes vidéos, pour parler, etc., etc. Et tout ça dans une mer calme. Mais quand tu as 1m50 de vague et toute la nuit, et que tu dors pas parce que tu es en train de vomir et t'en peux plus, le lendemain, il faut te remettre dans l'eau pour nager, c'est là où tu te dis ouais, « ça va être très long ». Et en fait, on n'en a aucune idée de savoir ce que le corps humain est capable de faire par rapport à ça. Ça ressemble un petit peu à un naufragé, sauf que le naufragé, il se laisse porter, et là, moi, je ressemblerais à un naufragé qui sait où il doit aller.
Et sachant que tu dors pas dans l'eau, on est d'accord que tu sors sur cette embarcation que tu vas te tirer.
Exactement,
ouais. Ouais. Okay. Tu seras au sec ou tu seras encore un peu mouillé?
Non, je pense que je serai au sec, hein, avec un bon sac de couchage pour pouvoir dormir, tu vois. Mais ça reste dans un environnement qui est quand même plutôt restreint, tu vois. La structure en elle-même n'est pas très... C'est un bateau que je dois... C'est une structure que je dois tirer dans l'eau tous les jours. Donc, pour pouvoir la tirer, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde, trop volumineuse, etc. Pour pas qu'il y ait trop de prise de vent, etc.
Vous êtes vraiment des dingues. Hein. J'ai reçu la semaine dernière Stéphane Brognard qui traverse le Pacifique à la rame. Dans le genre dingue, vous êtes quand même assez balèze, hein, les gars. Faut l'admettre.
Mais il s'en sort bien.
Il s'en sort très bien.
Ben voilà. C'est juste des vrais objectifs, quoi. C'est vrai, c'est juste de mettre en place une discipline et de se dire je lâche pas et c'est ce que je veux. Et en fait, mon message, entre guillemets, au-delà de l'écologie et de l'environnement, c'est vraiment de montrer aux gens également qu'on a tous en nous des capacités. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles en sont juste incapables. Et on m'a souvent dit mais Rémi, moi, je peux pas faire ce que tu fais. Je leur dis, mais pourquoi? Ben, parce que je suis pas comme toi, je sais pas nager. Ben, écoute, je vais t'avouer un truc. Hein. Moi, avant, j'étais dans la restauration, j'étais maître d'hôtel, mais j'avais une autre vie avant. J'avais une vie pleine d'excès. Je passais mes soirées dans des bars et boîtes de nuit. Je consommais des stupéfiants. Et j'ai tout arrêté parce que je voulais vivre. Et donc, je me suis mis un objectif en tête de pas lâcher et de me donner les moyens d'y arriver. Donc, on a bien cette capacité en soi de se sortir de certaines situations. Il faut juste le vouloir. On le dit souvent, hein, tes propres limites sont dans ta tête. Donc, à vous de débloquer tout ça et de trouver la force d'avancer.
C'est quoi, du coup, ton plus grand rêve?
Je n'ai pas de grand rêve, juste d'être heureux et voilà, d'être heureux personnellement et de faire le bonheur autour de moi et puis ensuite de croquer la vie tout simplement, tu vois, j'attends rien entre guillemets en retour, c'est-à-dire que je prends les choses comme elles viennent. Je le dis souvent, La vie, c'est un peu comme une rivière, tu vois. Il y a des fois, ça bouge, des fois, il y a des rapides, des fois, il y a des rochers, des fois, il y a des chutes d'eau, des fois, c'est très calme. Et il faut juste prendre un peu de recul, se relever, lire une trajectoire et te dire, bah, je vais aller par là, sans forcément savoir si c'est bien. T'en sais rien si c'est bien. Mais t'avances parce que bah, le passé, il est derrière. Faut pas y penser, faut avancer parce que faut vivre le moment présent parce que c'est la chose la plus importante. Et puis avoir toujours une petite longueur d'avance pour regarder ce qui peut arriver en face et se dire, ah, là, il y a peut-être une merde, peut-être que j'aille plus sur la gauche. Et c'est comme ça que j'appréhende la vie, c'est d'essayer de t'observer un petit peu devant, pas trop loin, parce que de toute manière, tu peux jamais voir ce qui se passe trop loin, mais juste, voilà, quelques centaines de mètres devant moi, ça me suffit, et c'est ce que je fais dans la vie. Donc, j'essaie de la vivre pleinement.
C'est vraiment, vraiment canon. Merci Rémi, parce que ça va bientôt faire une heure qu'on discute, tu vois, et j'ai pas vu le temps passer. Avant qu'on termine, j'ai quand même trois questions que j'aime bien poser à la fin. La première, c'est... si tu pouvais être le parrain ou le conseiller de quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que tu dis à la personne ? C'est quoi les étapes ?
Je dirais que c'est de croire en son projet, de vraiment que ce soit pas juste une lubie de se dire tiens je vais traverser l'Afrique à pied. Ok, mais est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que c'est ce que tu souhaites vraiment ? Est-ce que tu t'es projeté ? Est-ce que tu t'es vu à le faire ? Et donc voilà ce être sûr à 100% de ses choix. C'est difficile, hein. C'est pas forcément que dans l'aventure, hein. C'est dans n'importe quel projet. Tu peux pas dire à une personne qui veut se lancer dans la réalisation, la création d'une entreprise, moi je veux créer une entreprise. Ah bon, mais t'as pensé à tout. Et si t'en es pas convaincu à 300% de vouloir le faire, tu sais que tu te planteras. Donc il faut être sûr à 8000% de ce qu'on veut faire et ne pas avoir peur de se prendre des claques dans la figure, des portes qui se ferment. Parce que c'est comme ça, c'est des hauts, des bas, et c'est ce qui fait qu'on apprend. Je dis souvent aux gens, prenez en considération que la pire chose qu'on peut vous dire, c'est non. Et si vous avez déjà assimilé ça, le reste, c'est que du plus. Donc après, allez-y en ayant ça en tête, et puis on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
Bon, bah top, parfait. Merci pour ce conseil. Comment on fait pour te suivre, du coup, Rémi ? C'est quoi t'as des réseaux sociaux, des livres, des films ?
Ouais. Réseaux sociaux, j'ai Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, mais ça me gonfle, mais voilà. J'arrive pas forcément à tout faire correctement, mais LinkedIn, Facebook et Instagram, ouais, j'essaie à peu près de suivre sur Rémi Camus Explorer. Les trois sont pareils. Le livre est en cours d'écriture. On a eu un très très beau contact avec une très très grosse maison d'édition il y a 2 jours et donc je suis ravi et normalement l'année prochaine ça devrait sortir. Et puis ensuite, prochainement, je croise les doigts encore une fois parce que le Covid est encore bien présent, mais on a fini notre film d'aventure qu'on a réalisé avec Valentin Lam, mon photographe vidéaste, lorsqu'on est parti en Australie en novembre 2019, où on a embarqué avec nous 6 néo-aventuriers pour leur montrer une communauté aborigène, mais pour ça, il fallait qu'ils en bavent un peu, donc ils ont parcouru 400 km à pied, et donc on a sorti le film et on doit le passer en cinéma prochainement. Donc on attend juste que le 15 décembre pour que ça soit un peu plus souple. Et après, c'est parti.
Canon. On pourra aller le voir où, du coup, tu dis ?
Bah, dans tous les cinémas qui souhaiteront nous accueillir. Pour le moment, j'ai un contact en région Centre-Val-de-Loire, un sur la région lyonnaise. Et puis, on va essayer de voir également sur la Bretagne. Et puis, j'aimerais bien également, pourquoi pas, un peu Bordeaux et puis un peu plus le sud pour mettre un peu partout. Donc, à qui souhaitera ? On est ouvert à toute proposition.
Canon. Et du coup, dernière question, un peu philo aussi, c'est toi, si tu pouvais reparler à Rémi, qui est encore maître d'hôtel, qui n'a pas encore commencé tout son programme d'aventure, tu lui dis quoi ?
Je lui dirais, assez drôle parce que d'un côté je lui dirais pas grand chose parce que je lui dirais que ça va arriver, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouleverser ta vie, mais tu vois c'est dur de vouloir modifier Il y en a plein qui te demandent est-ce que tu veux changer le. Est-ce que tu, si tu avais cette petite clé qui te permettrait de revenir dans le passé pour changer, cette baguette magique pour changer ton passé, qu'est-ce que tu changerais? Et quand on est jeune, on veut changer plein de choses, oh, ça s'est mal passé, etc. Et plus on grandit, et en fait, on ne veut rien changer parce que c'est ce qui a fait que ce qu'on est devenu avec. Avec nos problématiques de cœur, nos problématiques d'aventure, notre vie sentimentale, notre vie professionnelle. Et c'est ce qui fait la richesse d'une personne. Donc, je dirais juste au Rémi, quand il avait 25 ans, mais t'inquiète pas, mon pote, ça va être juste trop bien.
Bon, merci en tout cas de tout ce temps, Rémi. Bravo pour tes superbes exploits. J'étais ravi d'avoir cet échange avec toi. C'était une superbe rencontre. Donc, merci d'avoir pris ce temps.
Non, c'est moi, franchement, c'était cool. Merci bien en tout cas.
Et puis, bien.
C'est toujours sympa de pouvoir le repartager et d'apporter des petites clés pour certaines personnes.
Ouais, je suis d'accord. Puis tu vois, c'est un format que moi j'aime bien. Je sais que tout le monde n'est pas trop fan du format long. Moi, je trouve qu'en une heure, on a le temps de balader à peu près tous les sujets, de balayer, pardon, à peu près tous les sujets. Alors que c'est vrai que quand tu fais ça pendant 20 minutes, ça fait plus interview de journaliste. Donc, moi, je suis content de passer du temps.
Ouais, je pense qu'il faut pas. Il faut que ça reste quelque chose d'intéressant, ni trop long, ni trop court, pour que les personnes puissent vraiment s'imprégner. J'en ai discuté avec beaucoup de personnes qui écoutent des podcasts et je leur demande, mais quand est-ce que vous écoutez des podcasts? Et il y en a qui me disent, quand je suis en voiture, dans les bouchons, j'écoute des podcasts quand je suis le soir en train de préparer à manger, tout ça, quand je suis en train d'habiller mes enfants, enfin voilà, donc je me dis une heure, en fait, ça va super vite, quoi. Tu vois pas le temps passer, et puis t'es accroché au truc, donc c'est ce que je trouve intéressant, en tout cas.
D'accord. Merci, écoute, Rémi, encore pour ce temps, et puis bon courage pour ce prochain projet, on se tient au courant.
Ça marche, merci à toi, en tout cas, c'est très gentil d'avoir pris ce temps.
À bientôt.
Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.